Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est la porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Elle est membre également de la Commission des Finances.
Bonjour Olivia Grégoire.
Bonjour.
Ce matin à Matignon, donc, en effet, les syndicats, les organisations patronales, les associations d'élus et les ONG environnementales, à mi-mandat, ce quinquennat est en train de renouer avec les grandes conférences sociales. Est-ce que c'est juste un symbole, un gadget ou bien un vrai changement de méthode ?
Je crois qu'on assiste là à un vrai changement de méthode, qu'on a pu observer déjà la semaine dernière et on va en parler aussi avec le ministre de l'économie qui intègre les parlementaires au tout début de ses réflexions. Nous avons un Premier ministre qui a entendu, qui a compris aussi les atermoiements et les erreurs que le gouvernement a pu commettre les deux premières années, c'est-à-dire de pas assez associer un certain nombre de corps intermédiaires. Je constate aujourd'hui que l'ensemble des corps intermédiaires, un, sont associés, et je consacre qu'on ne se réunit pas pour blablater sur des sujets creux. On se réunit pour parler de sujets très concrets, il y en a 5 au programme, on se réunit pour trouver des mesures très concrètes, pour répondre à des problèmes très opérationnels sur la transition écologique, sur le travail, sur un certain nombre de problématiques qui sont celles des Français.
Alors les réponses, elles arriveraient au mieux en septembre 2019, ça fait quand même 10 mois après le début des Gilets jaunes. Il y a quand même un scepticisme du côté des partenaires sociaux. Le patron de la CFE-CGC, par exemple, parle d'un grand gloubi-boulga de la société civile. Vous dites on en attend des choses concrètes, mais quoi ?
Laissons peut-être, on en attend un certain nombre de mesures concrètes en matière d'emploi, on en attend aussi un certain nombre de mesures concrètes en matière de territoire et de, on parle beaucoup de la prime transport, on va en parler dans les jours qui viennent, de mieux accompagner les Français dans leurs déplacements, dans leur facilité pour aller au travail. Il y a aujourd'hui un certain nombre de sujets à améliorer. Je pense qu'avant de dire, et j'étais fan de Casimir le gloubi-boulga, je pense qu'il faut peut-être laisser la conférence se tenir aujourd'hui et ne pas présager de son atterrissage, donnons-lui peut-être une chance.
La prime transport, c'est cette prime de 400 euros qui serait donnée aux salariés. Pour l'instant, elle n'est pas obligatoire. Vous pensez qu'elle devrait être obligatoire pour les entreprises ?
À cette heure, je pense que, et j'aurai un certain nombre de points du même acabit, je pense qu'on peut pas nous demander des décisions, des arbitrages, alors même qu'on est en pleine concertation. Je pense que c'est ça qui met à mal le dialogue social, et donc je pense qu'aujourd'hui, on doit discuter avec les syndicats de patronaux, avec les syndicats de salariés, et qu'on va voir aussi leur positionnement sur ces sujets-là pour décider ensemble.
Est-ce que ce rendez-vous marque un tournant de politique économique ? En tout cas, c'est l'inquiétude du MEDEF. Et Laurent Wauquiez, lui, affirme carrément qu'Emmanuel Macron est en train de passer d'une politique pro-entreprise à une politique anti-entreprise. C'est vrai ?
Laurent Wauquiez fait des tribunes, fait de la presse. Moi, j'aurais aimé que Laurent Wauquiez fasse des propositions. J'aurais aimé que les Républicains fassent des propositions. Vous l'avez rappelé, je siège à la Commission des Finances. La dernière proposition en date, proposition de loi pour le pouvoir d'achat des Républicains, alignait pas mal de 17 milliards d'euros de mesures non financées. Alors ils ont aujourd'hui beau jeu de nous donner des conseils. Ils ont été au pouvoir pendant un certain temps. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est pas de la polémique, c'est des propositions. J'ai lu avec attention l'intervention de Laurent Wauquiez. Il parle par exemple d'impôt de production. C'est un vrai sujet. Vous savez quoi ? On est d'accord sur le constat. Le gouvernement a l'intention d'y travailler parce que les impôts de production pèsent beaucoup trop sur la compétitivité de nos entreprises. C'est simple, on en paye. Nos entreprises en payent deux fois plus que la moyenne de la zone euro.
Donc,
c'est 72
fin...
milliards d'euros.
Ouais.
Donc on est d'accord sur les constats. Maintenant, ensemble, trouvons peut-être des solutions. J'en ai pas lu une seule. Je voudrais juste rajouter, j'ai porté le pacte, qui est une grande loi économique. Nous avons supprimé les seuils, qui étaient un boulet au pied de nos entrepreneurs. Nous avons supprimé le forfait social. Nous avons fait un certain nombre de mesures très fortes en matière de soutien aux entreprises. Je pense que la critique est aisée, mais elle est surtout injuste.
Et donc là, vous êtes en train, à la Commission des Finances, d'évaluer les niches fiscales des entreprises. C'est là-dessus, a dit Édouard Philippe, le Premier ministre, qu'il va falloir compter pour financer les 5 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le revenu. Les niches fiscales sur les entreprises, vous pensez qu'on peut... On peut dégager combien en les réduisant ?
Alors j'ai pris la parole hier pour donner une estimation. Je voudrais juste rappeler que sur les 5 milliards, ça n'est pas uniquement les niches fiscales entreprises qui vont y contribuer.
Surtout, a dit le Premier ministre.
Oui, le Premier ministre et Bruno Le Maire ont aussi dit, deuxièmement, un travail sur la dépense publique. Nous avons un certain nombre de travaux en cours à la Commission des Finances sur les autorités indépendantes dont a parlé le Président de la République la semaine dernière. Nous avons aussi des incitations qui vont être proposées pour travailler plus sans toucher à l'âge de départ légal de la retraite. Donc c'est un faisceau de mesures pour répondre très précisément. On escompte, on espère, entre 1 et 1 milliard et demi d'économies sur les niches fiscales entreprises, et c'est le travail qui débute désormais.
Donc pas surtout les niches fiscales des entreprises aussi, mais pas surtout en tout cas. 1 milliard et demi sur 5 milliards, c'est pas surtout.
Non, c'est pas surtout, c'est en partie. En revanche, je vais le dire très clairement, ça n'est que et seulement que les niches fiscales entreprises. Nous ne toucherons pas aux niches fiscales des ménages, principalement parce que nous ne voulons pas mettre à mal le pouvoir d'achat.
Alors pour les entreprises, les plus grosses, c'est le CIR, le crédit d'impôt recherche, le CICE, celui qui fait des, qui baisse les cotisations patronales sur les salaires. Et ça, vous avez décidé que les plus grosses, on n'y touche pas.
C'est pas tant qu'on a décidé qu'on a observé, et il y a beaucoup de rapports, notamment de la Cour des comptes, qui ont été émis là-dessus. Sur le CICR et sur le CICE, nous avons plusieurs constats. Un, ça soutient et l'emploi, ça a évité de la destruction d'emplois, et deux, ça a soutenu l'innovation. Nos entreprises ont fait un effort de 10 points entre 2007 et 2017 en matière de R&D.
Alors,
c'est
auquel...
dire que on peut pas casser des dispositifs qui ont une dynamique aussi positive.
Auquel
on ne touchera pas non plus au TVA à taux réduit. Par conséquent, tout ce que nous ne touchons pas va être mis sur la table. Il y a différents sujets aujourd'hui qui vont être posés. Vous l'avez...
Par exemple, lesquels peuvent être
différentes, creusés il y a premièrement un sujet de petites niches. On a un certain nombre de niches qui sont dans mon rapport spécial entreprise, dont on n'arrive même pas, pour tout vous dire, à dire combien elles rapportent. C'est-à-dire que c'est même pas epsilonesque, c'est en deçà. On va regarder ces niches-là. Il y a peut-être 100, 150 millions, 200 millions d'euros sur ces toutes petites niches. On a fait le travail sur les petites taxes l'an dernier, on va le faire sur les petites niches. Il y a ensuite des secteurs entiers que j'ai mentionné, que je peux rementionner, qui concerne à la fois le secteur de l'innovation, le secteur du capital risque, le secteur aussi parfois de la culture. Ces sujets doivent être posés sans polémique. Il faut regarder là-dedans ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tout est sur la table aujourd'hui, avec le MEDEF, je le précise, et les syndicats.
Olivia Grégoire, autre actualité, la pitié salpêtrière. L'hôpital n'a donc pas subi une attaque de manifestants gilets jaunes. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a fait son mea culpa. Vous aviez retweeté vous-même ces propos. Est-ce que, si on écoute Thomas Legrand, est-ce que la majorité, est-ce que le gouvernement n'en fout pas trop sur le danger que représenteraient les gilets jaunes?
J'ai beaucoup écouté Thomas Legrand, je pense que c'est une maladresse ou une erreur de communication. En revanche, pour ce qui est de la salpêtrière, vous m'excuserez, pour avoir regardé les images en détail et en précision, on est sur de la sémantique, c'est important, c'est pas une attaque, c'est une intrusion violente, certes. J'ai eu la malchance de côtoyer beaucoup les services de réanimation. Je pense que se réfugier ou apporter de la violence et des mouvements comme ça dans un hôpital a été problématique. Et donc je pense qu'il faut aussi écouter les mots qu'on a entendus, et je les ai entendus avec force. Le « achevez-le » crié sur le CRS à terre, à quelques mètres de la salpée. Entre nous soit dit, je pense qu'on aurait pu se l'éviter. Et même si peut-être que effectivement le ministre de l'Intérieur a parlé trop vite, le Premier ministre l'a dit, je pense que... Un service de réa, c'est grave et il faut du calme, il s'agit juste de la vie et de la mort.
Et vous pensiez donc que les manifestants avaient pour dessein de rentrer dans ce service de réanimation ?
Je n'ai pas l'outrecuidance de me mettre dans la tête des gilets jaunes, on va laisser les conclusions se faire. Je crois qu'il y a une enquête en cours, je vais la regarder avant de donner mon point de vue.
Les sénateurs PS veulent auditionner le ministre de l'Intérieur ?
Oui, c'est un réflexe. Voilà, c'est le réflexe de l'audition.
Comme ils l'ont
Sénat.
Fait pour l'affaire Benalla.
Oui, comme ils le font surtout et en permanence. Là encore, la Chambre haute gagnerait, à mon sens, à proposer beaucoup plus sur les textes, sur le fond du travail législatif, comme elle l'a fait d'ailleurs sur certains sujets dans le pacte, plus qu'à faire de la polémique en permanence. Je pense que c'est pas le rôle de la Chambre haute, malheureusement.
Dernière question en quelques secondes. Pendant ce temps, la campagne des européennes, elle ne décolle pas, cette liste LREM. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème?
C'est la campagne qui décolle pas, on va pas se mentir. C'est pas tant Madame Loiseau qui ne prend pas son envol qu'en réalité, cette campagne qui n'arrive pas à intéresser les Français. À nous de le faire. On est le 6 mai. Il nous reste moins de 20 jours aujourd'hui pour parvenir à mettre les vrais débats européens sur la table. Je remarque qu'aujourd'hui, les sujets sont nationaux. À nous d'expliquer que ce qui se joue le 26 mai, c'est l'avenir de la France, mais c'est aussi l'avenir de l'Europe.
Olivia Grégoire, députée et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.